Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre. Les rediffusions d'été, c'est tout de suite. Francis Scott Fitzgerald, 1896-1940. Une vie, une œuvre pour ses rediffusions a décidé de jouer au jeu des pères. Père d'amis ou d'amoureux, un compère le samedi et sa moitié le dimanche. Hier, nous étions avec Zelda Fitzgerald. Alors aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui était son mari, de celui qui était écrivain, de celui qui fréquentait Hemingway et de celui qui était jaloux. Francis Scott Fitzgerald. Sur les photos, il a une drôle de tête, un peu inquiétante, et un sourire contraint. On dirait qu'il montre les dents. Il porte l'arrêt au milieu, et ses cheveux de chaque côté font comme deux bosses sur sa tête, deux oreilles ou deux cornes, qui rendent ses images encore plus bizarres. Sur les clichés, s'il a l'air mal à l'aise, il est toujours impeccable. La veste qu'il faut, la cravate qu'il faut, le manteau bien coupé, le chapeau élégant. On dirait qu'il est prêt à être invité n'importe où, à l'improviste. Il pose souvent avec Zelda et leur fille, Scotty, parfois dans des mises en scène un peu tristes d'une vie de famille qui a l'air étrange. Mais surtout, il pose beaucoup en vacances, sur des paquebots, des plages, au bord de piscines, sur de belles pelouses, dans des décapotables, et on jurerait qu'il met en scène son oisiveté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il pose rarement en écrivain. Alors prêtons l'oreille à Francis Scott Fitzgerald, dans un documentaire de Simone Dweck, réalisé par Jean-Claude Loiseau.
À 5 heures du soir, le sombre salon ovale du Ritz s'épanouit aux notes d'une mélodie subtile. Clapotis léger d'un morceau de sucre, deux morceaux qui tombent dans la tasse. Tintement des théières étincelantes et des pots de crème qui se caressent élégamment en passant sur des plateaux d'argent. Les amateurs chérissent entre toute cette heure ambrée où le pâle, délicat labeur des lys qui peuple le Ritz est fini. Il reste la partie musicale, décorative du jour.
Une vie, une œuvre. Scott Fitzgerald, l'écrivain. Par Simone Dweck et Jean-Claude Loiseau.
Il avait une échelle de valeurs tout à fait personnelle dans laquelle l'écrivain était au premier rang. Il avait repris à son compte ce que Fortnum d'Oxford disait de Henry James. Henry James est le premier écrivain de son temps, donc c'est le premier personnage de son temps. Et quand lui-même, Scott Fitzgerald, était oublié, enfin, dans la dernière partie de sa vie, où ses livres n'étaient plus en vente, où plus personne ne savait qui il était, où les jeunes qui se souvenaient de lui le croyaient mort, eh bien, quand il allait quelque part, il vivait à Hollywood à l'époque, pour se présenter, il disait « Je suis Scott Fitzgerald, l'écrivain ».
C'est un jour qui miroite dans la brillance d'un soleil blanc sur une plage du Midi. Ce sont des jardins éteints qui gardent en secret l'écho lointain des fêtes nocturnes, le souvenir voilé des cascades de lumière. C'est la nuit du jazz, où se lamentent les trompettes bouchées et où dansent les flappers. Il y a, chez Fitzgerald, l'élégance de l'homme du monde, la violence du désespoir, le fugitif de l'instant déjà évanoui, tout le tragique de la génération perdue. Il y a la grâce de l'écriture et la grâce offerte à l'écrivain. Il dit « Je tirais des chèques sur des ressources que je ne possédais pas. » Paradis fragile, l'envers du paradis.
Ce qui fait que j'aime bien, c'est que...
Roger Grenier.
Cet homme qui paraît superficiel, qui raconte la vie... Une vie brillante et folle, les années 20, l'âge du jazz, enfin, appelez ça comme vous voulez, qui est fasciné par l'univers des riches en plus, il ne peut pas s'empêcher, même quand il écrit une nouvelle pour un magazine, de poser surtout ce qu'il appelle une touche de désastre. Et il est très très sensible à ça. Il a, à la fois parce qu'il a une sorte de sentiment naturel d'exclusion, puisqu'il est, bon, ça se voit dans Gatsby par exemple, puisqu'il est, il s'est introduit un peu par fraude dans le monde des riches, et il a toujours l'impression que c'est illégitime, qu'un jour il va être démasqué, rejeté, chassé, ce qui va lui arriver d'ailleurs. Et alors c'est curieux même parce que, bon, pour vivre, il a écrit beaucoup de nouvelles pour les magazines américains genre Saturday Evening Post ou Collier's ou Esquire. Et dans ces magazines, en particulier dans le Saturday Evening Post, il y avait des règles très très strictes pour les auteurs de nouvelles. En gros, il fallait être optimiste, c'est-à-dire qu'il était, il y avait des convenances à respecter aussi, mais enfin ça c'est autre chose. Mais il fallait pas de suicide, par exemple. Et lui, il avait du mal à se plier à ça, hein, parce que sa pente naturelle, c'est que ça finisse mal.
Toutes les histoires qui naissaient dans ma tête contenaient une touche de désastre. Les adorables jeunes créatures de mes romans couraient à leur ruine. Les montagnes de diamants de mes nouvelles se volatilisaient. Mes millionnaires étaient aussi magnifiques et damnés que les paysans de Thomas Hardy.
Il y a sur cette table un album assez extraordinaire, un album donc qui a été publié par Scotty.
Oui.
Et puis par Matthew Broccoli, qui est son biographe américain.
Oui.
Et qui est un album de photos. Ça s'appelle Les romantiques égoïstes.
Oui, c'est ça. C'est un album où il y a non seulement les photos, mais il y a absolument tous les documents écrits, toutes les lettres, tous les articles, toutes les cartes postales même que Scotty recevait quand ses parents étaient en voyage, etc.
Jacques Tournier.
Ça, c'est Scott à Princeton, là, dans la fameuse. Il est là dans l'équipe de football américain. Il n'a jamais réussi à devenir un grand footballeur, ce qui a été un des grands regrets de sa vie. On retrouve ça d'ailleurs dans une des nouvelles inédites qui s'appelle Le Stade. Et puis, il y a tous ses amis, etc. Et puis, on arrive à l'époque où il va publier son premier roman. Et c'est le moment où il a été mobilisé en 1917. Puisque les Américains étaient en guerre à ce moment-là, il n'a jamais été un soldat très passionné, ni très, très intéressé, mais il en a profité le samedi à la cantine pour écrire la première esquisse de L'Envers du Paradis, qu'il avait d'ailleurs appelé Les Romantiques Égoïstes. Bon, Scribner's le lui a renvoyé. Entre-temps, la guerre a été terminée. Il a cherché une situation, il a trouvé une place dans une agence de publicité à New York. Il s'est beaucoup ennuyé. Au bout de 6 mois, il a décidé de tout laisser tomber et de rentrer à Saint-Paul, chez lui, chez son père et sa mère, pour de nouveau recommencer complètement L'Envers du Paradis. Mais il faut ajouter à ceci qu'il était tombé amoureux de la fille du juge Zahir, Zelda donc, qu'il avait connue, dont il était tombé éperdument amoureux. Zelda avait refusé de l'épouser. Et il s'était dit, si j'arrive à publier mon roman et si je deviens un écrivain célèbre, Zelda m'épousera. Et en effet, en 1920, il a publié L'Envers du Paradis et 3 mois après, il a épousé Zelda.
Et la voilà, Zelda, dans cet album.
Oui, voilà Zelda, 18 ans. Je crois que le meilleur portrait qu'il ait tracé de Zelda se trouve dans son dernier roman, enfin, non, pas tout à fait son dernier, si, son dernier roman terminé, donc Tendre et la nuit. Il y a une merveilleuse description de Zelda dans la première partie, quand elle est sur la plage, qui est le personnage de Nicole,
oui.
Avant qu'on sache les problèmes qu'elle a, puisque Nicole a les mêmes problèmes que Zelda, c'est-à-dire qu'elle a des problèmes psychiatriques. C'est un couple qui a eu une vie extrêmement trépidante pendant les 10 premières années, en fait. Ce qui est très frappant, c'est que la vie de Scott tient en 3 dates. 1920, c'est son premier roman. 1930, c'est la première grave dépression de Zelda. Et 1940, c'est sa mort. On peut vraiment tracer cette courbe-là, de 20 à 30, qui a été la grande période de bonheur, de plaisir, de voyage et en même temps de travail, puisqu'il a écrit 3 romans d'un coup, puisque L'Envers du Paradis est de 1920, Les Heureux et les Damnés de 1922 et Gatsby de 1925. Donc ça a été la grande période de création. Et puis Zelda a eu sa première dépression nerveuse à Paris. Bon, il a été obligé de l'enfermer en Suisse, on l'a soigné, puis ils sont rentrés aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, la vie de Scott, non seulement la vie de Zelda, mais la vie de Scott est devenue une vie de plus en plus difficile. Il avait de moins en moins de possibilités d'écrire. Il a mis 7 ans à écrire Tendre et la nuit. Et finalement, il n'a été sauvé en 1936 que parce que son agent Huber a réussi à lui trouver un engagement à Hollywood. Et il est mort à Hollywood après avoir travaillé à toute une série de films qui n'ont pas grand intérêt. Le seul dont on parle encore, c'est le scénario de Trois camarades.
Lorsque la vie, comme une flamme, s'élance vers la mort, l'amour brûlé par son haleine jette son cœur fou au même feu qui, telle une torche, brûle la vie en cendres de mort. Princeton University, le 10 juin 1917.
C'est une sorte de caméléon qui a parcouru tout un panorama d'esthétique différente et même contradictoire.
André Levotte.
Il a commencé comme étudiant en étant soumis aux influences très pressantes de l'esthétique fin de siècle, voyez-vous, de la période mauve des auteurs anglais de cette époque, et son premier roman est inspiré directement de cela. C'est presque un pastiche, disons, qui décrit la vie à Oxford. Bon, alors il est lyrique, il est symboliste, il est tout ce que l'on voudra, voyez-vous, sauf moderne. Ensuite, il prend le tournant avec son deuxième roman, et là, c'est l'esthétique naturaliste, hein, naturaliste à la Zola, disons, avec des auteurs qu'il découvre et qu'il admire et qu'il tente d'imiter, des gens comme Dreiser ou Norris, hein, qui avait écrit autour du siècle, à peu près. Et son roman, le deuxième roman, justement, où il décrit tous les déboires du mariage, eh bien, est inspiré par cette esthétique. Et enfin, troisième stade, c'est avec Gatsby le Magnifique qu'il commence seulement à envisager aux États-Unis. Il en écrit bon, quelques fragments. Et alors là, ça sera tout à fait autre chose. Ça sera un art qui décolle véritablement du réalisme et qui s'exprime par échos musicaux, par rythme. C'est un langage non pas explicatif, disons, ou descriptif, mais c'est un langage allusif. C'est-à-dire les choses parlent, les couleurs parlent, les gestes parlent, sans commentaire.
Daisy était jeune, et son monde artificiel se peuplait d'orchidées, d'un snobisme agréable et joyeux, d'orchestres qui imposaient son rythme à chaque année, totalisant la tristesse et la suggestivité de la vie en refrains inédits. Toute la nuit, les saxophones sanglotaient les commentaires désespérés des Bill Street Blues, tandis que 100 paires de mules d'or et d'argent soulevaient la poussière brillante. À l'heure grise du thé, il y avait toujours des chambres qui palpitaient sans cesse de cette basse et douce fièvre, tandis que des visages frais allaient, de ci, de là, à la dérive, comme des pétales de rose remués sur le plancher par le vent des tristes trompes.
Il essayait de façon assez délibérée d'inventer ce qu'il appelait l'écriture du XXe siècle. Et là, il se basait sur les tentatives qu'avait fait Henry James. Il a une dette envers James, mais il a surtout, je pense, une dette envers Conrad.
Michel Fabre.
Il intitule Tender is the Night a Romance. Par romance, on insiste sur l'aspect romantique, sur l'aspect imaginatif, sur l'imaginaire de l'écrivain. Et l'aspect un peu paradisiaque parfois de son écriture. Dans Nostromo, dans les Contes des Mers du Sud, Conrad avait beaucoup donné dans cette écriture qu'on peut appeler romantique. Il s'agissait surtout de suggérer une atmosphère, d'utiliser une symbolique suggestive de cette atmosphère, plus que de camper des personnages dans une vérité psychologique assez nette. James, je crois qu'il a une dette envers James, en ce qui concerne la façon de creuser les personnages, d'avoir ces personnages que James appelait des réflecteurs, c'est-à-dire le point de vue du narrateur multiple, mais surtout, je pense, quant à l'aventure européenne, transatlantique des personnages de James, quant à cette notion de l'Américain innocent qui se trouve confronté à l'Europe méchante, vilaine, maligne, l'Europe du péché. Fitzgerald a une attitude assez ambiguë par rapport à la position de James. James voyait très nettement l'Amérique comme représentant de l'innocence et la vieille Europe comme représentant du péché ou de la perversité.
C'est pas si net chez Fitzgerald.
Chez Fitzgerald, c'est pas du tout si net, non. Parce qu'il
peint souvent des personnages américains qui s'encanaillent en quelque sorte en Europe, mais ils portent déjà en eux ces germes de perversité ou de déchéance. Je me souviens d'une carte qu'il aimait beaucoup à utiliser, une carte postale, quand il écrivait à ses amis, il leur envoyait un foie d'alcoolique, un foie normal.
Bonsoir à tous. Entre Tendre et la nuit de l'américain Scott Fitzgerald et Deux guerres lasses de la française Françoise Sagan, il y a un demi-siècle. Et combien d'autres romans d'amour ?
Apostrophe, mai 1985, Bernard Pivot recevait Scotty Fitzgerald.
Madame Scotty Fitzgerald, vous êtes la fille du couple le plus charmant, le plus talentueux, mais aussi le plus tumultueux de la littérature américaine, c'est-à-dire Scott et Zelda Fitzgerald. Alors, vous êtes né aux États-Unis, mais à quelques mois après, vous auriez bien pu naître en France.
Hein, oui, c'était très près. Oui.
Alors, pourquoi sont-ils venus en France 2 ou 3 ans après votre naissance ?
Je pense que ce temps-là, c'était la chose la plus romantique qu'on pouvait faire. Tous les auteurs que mon père admirait habitaient plutôt à Londres. Et ils sont allés à Londres d'abord, et puis à Paris, et puis à Venise. C'était le grand tour, comme Henry James, vous savez. Apparemment, tous les Américains qui arrivaient à Paris à ce moment se débouchaient des bateaux et commençaient à boire. Je ne comprends pas ça. Ah oui. Peut-être que c'est à cause de la prohibition aux États-Unis.
Ils en profitaient, là.
Oui. C'était la chose qu'on faisait à Paris. C'est très drôle, n'est-ce pas? Parce que personne ne pense à ça maintenant.
Mais alors, on est surpris par l'amour qu'ils portent à la France. L'un et l'autre, d'ailleurs.
Oui. Et quand, après que ma mère et mon père sont retournés aux États-Unis, elle a fait des très belles peintures que j'ai sur mes murs maintenant, de Notre-Dame, du Bois de Boulogne, de l'avenue de l'Opéra, et elle adorait Paris.
Alors, est-ce qu'ils ont appris le français ?
Non. Ma mère, un peu, elle parlait le français du boulanger, mais mon père, non. Et je pense que peut-être pour les écrivains, c'est peut-être mieux de ne pas essayer d'apprendre une autre langue quand on est en train d'écrire.
Ouais. Au total, alors, vous êtes resté combien d'années à Paris ?
De 1924, je crois, jusqu'à 1931.
Lorsqu'on arrive sur les quais où sont amarrés les navires, derrière des hangars à toit plat, on se trouve dans un pays qui n'est déjà plus celui d'où on vient, pas encore celui où on va. Les bruits assourdissants tournent sous les verrières jaunâtres. On entend le roulement sec des trains de marchandises, le déferlement des chariots à bagages, le sifflement strident des grues et l'odeur salée de la mer vous suffoque. Même si rien ne vous presse, on se sent obligé de se bousculer. Tout change dès qu'on a franchi la passerelle. Le monde rétrécit. On devient citoyen d'une république plus étroite que celle d'Andorre. On perd toute assurance. La sirène lance alors son hurlement lugubre. Le navire, cette invention de l'homme, est parcouru d'inquiétants tremblements et s'écarte du bord. Le quai glisse lentement le long de ses flancs, tout visage confondu. Et pendant un moment, c'est comme si un fragment du quai lui-même se détachait accidentellement. Les visages ne sont bientôt plus qu'une brume, les voix s'estompent, le quai devient une ombre parmi d'autres en bordure de mer, puis le port lui-même bascule, le navire est au large.
André Levote, on va peut-être reprendre la vie de Fitzgerald au moment où, avec Zelda, il embarque pour l'Europe.
Ah bah c'est un départ, oui, c'est un départ au sens étymologique, c'est-à-dire il se sépare de l'Amérique, il tourne le dos à tout son passé, Disons, on peut dire qu'il quitte véritablement le 19e siècle. Hein, il rentre de plein pied dans le 20e siècle. Il va bientôt rencontrer d'ailleurs Gertrude Stein qui disait « Où est Paris ? C'est là que se trouve le 20e siècle ». Il arrive en 24 donc, et il ne me reste que quelques jours à Paris, peut-être 2 semaines, et il part directement vers le sud, vers la Côte d'Azur. Il s'arrête à Hyères d'abord, qui est envahi par les Anglais, où l'on ne mange que du mouton. Bon, et il finit par découvrir les hauteurs de Saint-Raphaël, où il loue une villa, la villa Marie à Valescure, et c'est là qu'il va, pendant tous les mois d'été, écrire Gatsby le Magnifique. Il y aura ces nouvelles tendances esthétiques qui se débattent confusément dans son esprit. Et il y aura également une expérience traumatisante, c'est-à-dire la première trahison de sa femme, Zelda. Zelda et lui avaient vécu jusque-là dans une complicité parfaite, dans une connivence extraordinaire. Lui, acceptant tous les hommages qu'elle suscitait de toutes parts, et Dieu sait si elle était coquette, aguichante, frivole. Et brusquement, ça va devenir sérieux. Elle va rencontrer un jeune officier, parce que lui, évidemment, écrit toute la journée. Il est enfermé dans la Villa Marie, au milieu d'un grand parc. Et pendant ce temps-là, eh bien, Zelda s'ennuie. Elle passe ses journées à la plage avec la petite Scotty, la gouvernante, mais plus souvent toute seule. Et c'est là qu'elle fait la rencontre d'un groupe d'officiers d'aéronaval de Fréjus. Et en particulier, un superbe gaillard, Édouard Josan. Et c'est à partir de cette expérience très violente, très forte, qu'il va écrire justement les scènes d'amour, les scènes la tentative de scène de rupture dans Gatsby le Magnifique. Et lorsque Gatsby essaie de convaincre Daisy de se séparer de son mari. Et on retrouvera mot pour mot les termes qu'il emploie dans son dernier roman publié, Tendre et la nuit, où l'amant veut faire dire à la femme, à son mari, ce n'est pas toi que j'aime, c'est lui. Et peut-être ces paroles sont restées en suspens pendant les différentes scènes qui ont eu lieu à ce moment-là. Enfin, ça a été donc un élément vital, un élément dynamique, on pourrait dire. Et il a beaucoup souffert, il a vraiment traversé là une sorte de cauchemar. Mais en même temps, lorsqu'il se retourne sur son passé un petit peu plus tard, il dit, ça a été un été magnifique.
La maison de Gatsby était encore vide quand je partis. L'herbe de sa pelouse était devenue aussi longue que la mienne. Je passais mes samedis soirs à New York parce que ces fêtes brillantes, éblouissantes qu'il avait données demeuraient si vivaces en moi que j'en entendais encore la musique et les rires à peine distincts, incessants, dans son jardin et les autos qui allaient et venaient dans son allée. Une nuit, j'entendis une véritable auto et vis ses lanternes stoppées devant le perron. Mais je ne manquis point. C'était probablement un dernier hôte venu des confins de la terre qui ignorait que la fête était finie. La dernière nuit, ma malle faite et ma voiture vendue à l'épicier, j'allais contempler une fois encore cet immense et incohérent ratage de maison. Sur les marches blanches, un mot obscène, inscrit par quelques voyous avec un éclat de brique, se détachait au clair de lune. Je l'effaçai en frottant la pierre de mon soulier avec un grincement de cuir. Puis je descendis à pas lents sur la plage et me couchai dans le sable.
Jacques Tourny, on va continuer à feuilleter cet album ?
Bien sûr.
Parce que c'est une mine, en fait. Toutes ces images. Voilà, Alabama. Alors, on est encore en 1918, là.
Là, c'est avant le... Voilà Scott en militaire, avec sa superbe casquette.
Alors, sur cette page, il y a une série de photos.
Ah oui, ça, c'est une chose très étonnante. Enfin, très étonnante. Oui, moi, j'aime beaucoup ça. Parce qu'en fait, c'est un texte mystérieux qu'il a écrit... qui s'appelle
The Cruise of the Rolling Junk.
Oui, c'est ça. En français, on peut traduire ça à peu près la balade ou la croisière, enfin, de Le Rolling Junk, c'était le nom de leur voiture. Quand ils étaient jeunes mariés, ils avaient une vieille voiture qui était extrêmement abîmée, et donc ils l'appelaient The Rolling Junk parce que c'était vraiment un clou. C'était un clou qui arrivait quand même à rouler, mais etc. Et c'est un texte qui n'a jamais été édité sous forme de volume en Angleterre, qui n'a paru que dans une revue automobile, et c'est le récit vrai d'ailleurs d'un voyage qu'ils ont fait, Zelda et lui, à travers l'Amérique. C'était un moment où ils vivaient dans le Connecticut, et un matin, elle trouve qu'au petit déjeuner, elle voudrait manger des pêches et des gâteaux qu'on ne trouve pas, et Scott, comme ça, lui dit, ben, il n'y a qu'à faire ta valise et on va les manger chez ta mère. Alors ils prennent leur voiture et ils font 6 jours d'une traversée complète jusqu'en Alabama. Et c'est une description d'abord de la voiture qui est un vieux clou irrésistible. Alors chaque pneu a un nom. Alors il y en a un qui est notamment couvert de bandelettes qu'on appelle Lazare, naturellement. Enfin, bon, il y a toute une série de choses. Et ce qui est très beau, car finalement c'est un très beau texte, ce qui est très beau, c'est qu'on a l'image de l'Amérique à travers son œil à lui. Et il y a par exemple une première chose tout à fait surprenante, c'est qu'ils arrivent à Princeton le premier soir et qu'il fait dormir Zelda dans sa chambre d'étudiant. Il y a des choses comme ça. Il y a l'arrivée dans le sud, la description du sud, le passage à la frontière, quand il voit les premiers noirs, etc., quand il voit les premiers marais et tout. Bon, et c'est un texte absolument super. Alors, naturellement, la voiture est tout le temps en panne. Ils arrivent tout le temps dans des garages. Il y a tout le temps des gens qui veulent leur racheter ou qui veulent leur revendre des choses. Il y a un moment où ils tombent en panne sur une route et ils ne savent absolument pas comment réparer la voiture. Alors, arrive dans l'autre sens la même voiture conduite par un autre monsieur. Alors, Zelda fait cacher Scott derrière un mur et elle reste seule sur la route pour que le monsieur ait pitié d'elle. Alors le monsieur se dépêche de sortir, lui répare complètement sa voiture, et au moment où il pense qu'il a fait une affaire et qu'il va partir avec elle, Scott sort du mur en disant « Je n'ai pas trouvé de téléphone » et Zelda dit « Mais la voiture est réparée, on s'en va ». Enfin bref, c'est un texte qui est d'une drôlerie parfaite, et le dernier chapitre est aussi beau, je le dis franchement, que le dernier chapitre de Tendre et la nuit, mais presque à la blague, car cette voiture, elle s'en va comme ça en petits morceaux, et Scott dit on ne la reverra jamais parce qu'il y a peut-être une roue qui a été rachetée par le moteur qui a été dans une autre, enfin, etc. Et elle continue à errer dans notre souvenir, etc. C'est un texte super. Alors là, ce qui est très frappant, c'est ce qu'on appelle le ledger de Fitzgerald, c'est-à-dire son carnet de notes, où il a noté, il a commencé en 1920, je crois, et il l'a tenu jusqu'en 1936, et année après année, il avait d'abord, chaque année, il avait le résumé de son année en disant cette année n'a pas été une bonne année, je n'ai rien fait, etc. Ou au contraire, cette année, etc. Et puis dans les pages suivantes, il tenait le répertoire de tout ce qu'il écrivait. Alors il y a donc, là vous voyez, sur la colonne de gauche, il y a tous les titres de ses nouvelles. Après, il y a toutes les dates à lesquelles il les a écrites, les dates à lesquelles ils ont été publiés, à quel endroit ça a été publié, ce que ça lui a rapporté, ce que c'est devenu après dans les volumes, en fait. Donc, ce qui est très intéressant dans la bibliographie de Fitzgerald, c'est qu'elle est très claire aussi. C'est qu'il y a 4 romans et 4 recueils de nouvelles. Et chacun des romans a été suivi d'un recueil de nouvelles. Donc, en 1920, donc, il y a eu L'Envers du Paradis, suivi d'un premier recueil de nouvelles. Car il écrivait des nouvelles en dehors de ses romans pour vivre. C'était une habitude nécessaire, en fait, et il n'était pas le seul à faire ça. On est très frappé, par exemple, qu'un écrivain comme Conrad a également fait la même chose dans sa vie. Il a écrit des romans pour lui, et puis quand il avait besoin d'argent, il écrivait une nouvelle, car en fait, une nouvelle, c'est beaucoup plus facile à vendre tout de suite, et ensuite, ça peut être repris dans un recueil. Donc, il y a double bénéfice. Donc, sans du tout que ce soit péjoratif, on peut dire que sur un plan commercial nécessaire pour vivre et pour faire vivre Zelda et Scotty, qui étaient nés en 1921, il écrivait des nouvelles. Et quand il avait terminé un de ses romans, il reprenait quelques-unes des nouvelles qu'il avait publiées. Il en écrivait beaucoup. Il en a écrit plus de 170, je crois, 180. Enfin, je crois que c'est énorme. Surtout quand on pense qu'il est mort à 44 ans. Donc, vraiment, il a écrit très vite, en très peu de temps. Et il reprenait en recueil ses nouvelles. Donc, il y a L'Envers du Paradis et un recueil de nouvelles, Les Heureux et les Damnés, l'année suivante, un recueil de nouvelles, Gatsby et un troisième recueil de nouvelles, et Tendre et la nuit et un quatrième recueil de nouvelles.
plutôt par crainte de la solitude que par désir de s'imposer les tracas et l'ennui d'une réception, ils emplissaient la maison d'invités à chaque fin de semaine et souvent en semaine aussi. Les réunions se ressemblaient peu ou prou. Quand arrivaient les trois ou quatre hommes invités, les apéritifs s'imposaient plus ou moins, suivis d'un dîner jovial, après quoi on se rendait en auto au Cradle Beach Country Club, auquel ils avaient adhéré en raison de la cotisation modique, club animé sinon chic, qui constituait presque une nécessité en pareille circonstance. De plus, ce que l'on y faisait là ne comptait pas beaucoup, et aussi longtemps que la bande de Patch évitait congrûment de mener trop grand tapage, peu importait que les dictateurs mondains de Cradle Beach vissent la pétulante Gloria siroter des cocktails dans la salle à manger à fréquents intervalles au cours de la soirée. Le samedi s'achevait en général dans une éclatante confusion. Souvent, il fallait aider un invité pris de vin à gagner son lit. Le dimanche apportait les journaux de New York et une calme matinée de récupération sur la véranda. Et le dimanche après-midi, on disait au revoir à un ou deux invités qui devaient s'en retourner en ville et une nouvelle ribote commençait avec un ou deux convives qui restaient jusqu'au lendemain.
Donc il a des moments d'intense concentration et de concentration, de compression presque, et opposé à cela, il y a une dilatation qui s'exprime par... C'est presque un mouvement, le mouvement du moteur explosion, voyez-vous, qui s'exprime véritablement par des explosions, par la dilapidation de ses moyens, dans tous les sens du mot.
Alors cette dilapidation, comment elle intervient justement ?
Eh bien, elle intervient par des fêtes qui durent des journées, par la boisson, par... un de ses amis justement, Gerald Murphy, et qui était pour lui l'accomplissement parfait de l'homme du XXe siècle, un ami de Picasso, de Diaghilev, de tous ces gens-là, et c'est lui qui l'a introduit un petit peu plus tard à ce monde. Il arrivait que cet ami l'exclua pendant deux semaines, trois semaines, parce qu'il s'était mal conduit chez lui. Il avait jeté les verres par-dessus la fenêtre, qu'il avait lancé une glace dans le dos d'une princesse qui était assise là dans le grand jardin de la Villa America. Voilà le genre de choses qui se passaient. Donc, complètement incontrôlé à ce moment-là. Autant il exerçait un contrôle impérieux sur sa création, autant au moment de décompression, de ce qu'il appelait la dissipation. Il joue sur ce mot, le mot dissipation, se dissiper dans l'air. Il ne reste rien de l'argent. Il se demande toujours où est passé l'argent, où sont passés les milliers, les dizaines de milliers de dollars qu'il gagne. Et en France, par exemple, imaginez, une simple nouvelle qu'il écrit pour le Saturday Evening Post à cette époque lui rapporte 4000 dollars. C'est-à-dire qu'il est le mieux payé à ce moment-là des écrivains de l'époque.
Est-ce que vous pensez qu'on peut, dans l'histoire de l'écriture, de la littérature américaine, trouver une place bien à elle, à Fitzgerald ?
Oui, indubitablement. Il est de la même génération que Dos Passos, que Hemingway.
Michel Fabre.
Que Faulkner, en un sens. Chacun écrit à sa manière. Dos Passos a un style beaucoup plus mécanique à certains égards. Et il pratique davantage la juxtaposition. Il est en même temps analytique, mais il pratique surtout la juxtaposition. Faulkner a ses longues périodes magnifiques, somptueuses, qui essaient de faire le tour de la réalité pour la restituer dans toutes ses tonalités, toutes ses ambiguïtés, un peu comme Proust. Je crois que l'écriture faulknerienne sera davantage proche de celle de Proust. Celle d'Hemingway et davantage également une juxtaposition de petites notations, un style assez lapidaire, avec, très curieusement, l'utilisation de la métaphore pour désigner ce qui serait normalement décrit. Par exemple, il dira « a vast redness », pour parler d'une plaie sanguinolente, c'est-à-dire la rougeur, enfin la couleur rouge, vaste, ce qui est tout à fait inattendu. Mais c'est un effet très propre à Hemingway. Fitzgerald, il a vraiment une oreille pour restituer un certain nombre de dialogues. C'est pas le dialogue du peuple, pas du tout, c'est le dialogue de la classe moyenne. Il est assez en contact des riches américains. J'ai connu un capitaine de frégate américain qui avait assez bien connu Fitzgerald et qui me parlait de lui dans des termes qui m'avaient un peu déconcerté au début, en me disant que ce qu'on appelait la Grande Dépression, c'est-à-dire la crise de 1929 et des années 30, on se la représente comme ayant profondément affecté les États-Unis. C'est vrai statistiquement, mais ce capitaine de frégate me disait qu'il fallait penser que ça n'avait pratiquement pas affecté les riches, en particulier Fitzgerald. Et il me disait que Fitzgerald continuait à graviter aux années 30 dans des milieux qui étaient totalement préservés de la Grande Dépression. On a dû vous parler beaucoup des Murphy, de Sarah et Gerald Murphy. La vie est une fête pour eux. Living well is the best revenge. C'est-à-dire que se venger sur la mort, c'est de prendre d'avance sur elle la courte tête qui permettra de jouir de la vie.
J'avais 30 ans. Devant moi s'allongeait la formidable, la menaçante route d'une nouvelle décennie.
Chez lui, il y a deux versants. Il y a le versant des années 20 et le versant des années 30, qui sont parfaitement antithétiques. Et pendant les années 20, il a été véritablement, c'est peut-être lui-même qui a inventé l'expression « l'âge du jazz ».
André Levotte.
Ça a été, l'illusion que la prospérité allait durer toujours, qu'il n'y avait... Donc, chaque jour, les cours montaient en bourse. L'Amérique avait véritablement quitté, elle aussi, le 19e siècle, qui était le siècle des réussites des puritains, qui travaillaient âprement, qui pratiquaient l'épargne. On ne dépensait pas. Un sou, c'est un sou. Enfin, c'était ça un petit peu partout ailleurs, en Europe aussi. Mais enfin, en Amérique, c'était très net, cela. Et alors, brusquement, pendant la guerre, après l'effort de guerre, il y a cette décompression qui intervient également, comme elle intervient dans la vie privée de Fitzgerald, avec la fête, avec la libération.
Les années folles,
c'est exact. Alors, ça ne signifierait rien si ce n'était pas mis en contraste avec l'autre partie, la pliure, disons, de l'histoire, c'est le krach de 1929, naturellement. Et après, c'est la déconfiture, c'est le krach au sens propre, c'est-à-dire tout un empire financier qui krach. C'est-à-dire, au lieu du travail, c'était la spéculation qui avait mené la danse. Et il a exprimé ça dès 1930-31 par des nouvelles où l'on voit précisément ces banquiers ruinés qui se jettent du haut des gratte-ciels et qui vont s'écraser au sol. Alors, il y a cette période qui va être une période affreuse pour lui. Sa femme est devenue juste... Voyez-vous, il y a une coïncidence, on croirait que ça a été calculé, il y a une coïncidence extraordinaire entre la vie privée et la vie publique, entre son pays et lui-même. Parce que Zelda devient folle précisément en 1929, elle est enterrée en 1930. Et donc, on quitte Paris, c'est significatif pour la Suisse, pour une maison de santé en Suisse où elle restera 18 mois. Et là, c'est le retour, et puis il va perdre ses lecteurs, il va perdre ses moyens d'existence, et ça va être presque la misère. Je dis presque parce qu'il n'a quand même pas touché le fond comme la plupart des autres Américains à cette époque, mais il a connu quand même des moments véritablement affreux.
Ça, c'est très fascinant. Quand la courbe d'une vie suit la courbe d'une époque, ou le destin d'une nation aussi, ça renforce évidemment tout cela. Mais ça demande à être corrigé parce que...
Roger Grenier.
Fitzgerald a dit lui-même que toutes les grandes catastrophes auxquelles il a assisté, c'est-à-dire un de ses amis qui est assassiné, un autre qui saute par une fenêtre d'un gratte-ciel, etc. Il fait toute une liste à un moment. Il dit tout ça n'est pas arrivé... pendant la dépression, c'est arrivé au contraire pendant le boom, et puis j'ai pas été chercher ça dans les journaux, c'est des amis à moi, des gens très proches. Donc même au cœur de sa réussite, le désastre était, le sentiment du désastre était déjà présent.
L'Italie. Le mot lui était devenu une sorte de talisman. Un pays où les intolérables angoisses de la vie tomberaient de lui comme un vieux vêtement. Ils iraient d'abord dans les stations balnéaires, et parmi les foules vivantes et bariolées, oublierait les mornes corollaires du désespoir. Merveilleusement rajeuni, il se promènerait de nouveau sur la place d'Espagne au crépuscule, mêlé aux flots mouvants des femmes brunes et des mendiants en haillons, des religieux austères et pieds nus. La pensée des femmes italiennes l'émut vaguement. Lorsque sa bourse pèserait à nouveau lourd, le romanesque même reviendrait peut-être à tire d'aile s'y percher. Le romanesque des canaux bleus à Venise, des collines de Fiesole, vertes et dorées après la pluie, et des femmes qui changeaient, se dissolvaient, se transformaient en d'autres femmes et sortaient de sa vie, mais demeuraient à jamais belles et jeunes à jamais. Pourtant, il lui sembla qu'à présent, son attitude serait différente. Toutes les épreuves subies, toute la tristesse et la souffrance lui étaient venues par les femmes. C'était quelque chose qu'elle lui infligeait sous des formes différentes, inconsciemment, presque fortuitement. Peut-être parce qu'elle le trouvait tendre et craintif. Elle tuait en lui tout ce qui menaçait leur souveraineté absolue. Il se détourna de la fenêtre, affronta son reflet dans le miroir et contempla avec découragement le visage émacié, blafard, les yeux avec leur croisillon de rides tels des filaments de sang séché, la silhouette voûtée et avachie dont l'affaissement même attestait la léthargie. À 33 ans, il en paraissait 40.
D'entendre et la nuit, c'est un regard rétrospectif qu'il jette donc sur ces années perdues, en quelque sorte. Et également sur les moments très intenses qu'il a vécu à ce moment-là. Et il s'est identifié à ce moment-là à Gerald Murphy. Et dans le début, dans la première partie de Tendre et la nuit, ce qu'il dépeint, ce qu'il décrit, c'est le couple de Sarah et Gerald. Ce sont eux qui sont là, ils leur prêtent des paroles qu'ils ont prononcées, les enfants qui viennent chanter au clair de la lune, le magnifique jardin qui descend sur la garoupe, enfin tout est là, une évocation extraordinaire de poésie, de tendresse. Et insensiblement, les personnages, le docteur Diver et sa femme, changent dès l'instant où l'on apprend que Mrs. Diver est folle. À des accès de folie. Et petit à petit, il finit par s'identifier au docteur Diver lui-même, voyez-vous. Et il a fait 17 versions de ce roman. Et il y a un de ses amis qui est venu le voir, Malcolm Crowley, et il lui a montré, il avait une pile près d'un mètre de haut de feuilles de papier empilées. Il dit, voilà ce que je fais, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus. Et à force de travail, de ratures, de suppression de chapitres, etc., il a réussi quand même à s'en tirer. Alors que Zelda était là, hantait les corridors comme le spectre de Lady Macbeth, si vous voulez, essayait de mettre le feu à la maison. Il a dû interrompre son roman parce que cette maison qui avait encore le nom ironique de La Paix était en flammes. Et lorsque Tendre et la nuit est paru, ça a été un échec. Ça a été un échec.
My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days.
En même temps, il y avait les dépressions de Zelda qu'il fallait emmener au sanatorium, puis la ramener. Enfin, voyez-vous, c'était une période extrêmement pénible pour lui. Et tout cela a abouti à ces fameux essais de la fêlure, où il se retourne et il essaie d'analyser un petit peu ce qui lui est arrivé.
Ou l'après-midi d'un écrivain, ça aussi.
Oui, c'est toute une série parce que le Saturday Evening Post ne veut plus de ces histoires, voyez-vous. D'abord parce qu'elle commençait à se passer, à avoir pour cadre l'Europe des émigrés, des gens riches, des oisifs. Ça n'intéressait plus personne, évidemment. Même si la plupart de ces oisifs avaient leur crise personnelle, Et alors à ce moment-là, il perd donc sa source de revenus et ce n'est qu'un escroc, un nouveau magazine qui vient de se créer, qui lui offre, c'est Gingrich, le directeur, qui lui offre, bon, il dit à Gingrich, je ne peux plus écrire, c'est impossible. C'est impossible, après l'échec de Tendre et la nuit, qui n'a vendu qu'à 13 000 exemplaires à peu près, ce qui était pour lui un échec. Je ne peux plus écrire, je suis complètement paralysé, je suis complètement épuisé. Il lui dit, bah écoute, écris, essaye d'écrire pour dire que tu ne peux pas écrire. N'importe quoi, tu remplis une feuille de papier avec des gribouillis, tu me l'envoies, il y aura un dossier reçu du manuscrit de Monsieur Fitzgerald et je t'envoie un petit chèque. C'était un chèque seulement de $300 à cette époque, comparé aux $4000 qu'il touchait quelques années avant. Et donc les premiers textes qu'il a envoyés, ça a été précisément la fêlure. Et il a continué sur cette voie en écrivant des petits textes merveilleux, dont La maison d'un écrivain, La mère d'un écrivain, etc., etc. Et des petites nouvelles, mais très courtes, de 2 ou 3 pages, qui sont parmi ce qu'il a écrit de mieux, je crois, de plus déchirant.
Février 1936. Toute vie est bien entendu un processus de démolition, mais les atteintes qui font le travail à coups d'éclat, les grandes poussées soudaines qui viennent ou semblent venir du dehors, celles dont on se souvient, auxquelles on attribue la responsabilité des choses et dont on parle à ses amis aux instants de faiblesse, n'ont pas d'effet qui se voit tout de suite. Il existe des coups d'une autre espèce, qui viennent du dedans, qu'on ne sent que lorsqu'il est trop tard pour y faire quoi que ce soit, et qu'on s'aperçoit définitivement que dans une certaine mesure, on ne sera plus jamais le même. La première espèce de rupture donne l'impression de se produire vite, l'autre se produit sans presque qu'on le sache, mais on en prend conscience vraiment d'un seul coup.
Quand on vient d'écrire un livre, peut-être plus... où on a mis toutes ses forces, peut-être qu'on se dit qu'on ne s'est plus rien laissé dans la vie, qu'on a tout mis dans le livre et qu'on n'a pas fait l'économie, qu'on a oublié de se garder quelque chose pour soi.
Colette Fellous. Et
pris par l'élan des mots, et c'est là qu'on se trouve démuni. Je crois que tout écrivain, peut-être pas pour chaque livre, mais pour des livres importants, au moment de la publication ou de quand le livre appartient aux autres, quand le livre est sorti, ne se retrouve complètement démuni et presque ahuri, bête, idiot même, devant la vie. Et on ne trouve plus rien, plus aucun geste. Et on refait, c'est ce que dit Fitzgerald, je crois, dans la fêlure, on refait les choses parce qu'on... Les choses les plus simples, sourire aux gens, parler aux gens, dire bonjour, écouter... Mais on les refait machinalement parce qu'on a le souvenir de comment c'était, comment on faisait avant quand on arrivait à faire. Mais intérieurement, on se sent vide. Et quand Fitzgerald dit qu'avant la quarantaine, il y a eu cette fêlure comme une assiette fêlée qui peut encore servir, mais pas à manger vraiment, pas à être lavée, mais à recueillir des noix sèches ou des... On la met dans un coin, elle sert, elle est là, elle existe, mais elle ne peut pas vivre comme avant, comme elle vivait avant. Et c'est peut-être, pour ça que j'ai lié ces 3 textes, Veiller, dormir, L'après-midi d'un écrivain, où justement il n'arrive pas à écrire, et il pense qu'en se promenant, il trouvera les phrases, et il note tout ce que d'habitude il aime regarder, mais il sait que ça ne lui servira pas. Donc ces 2 textes et la fêlure qui sont plus beaux textes.
Hollywood, Californie, le 14 juin 1940. Ma chère Zelda, pour le moment, je n'en suis guère qu'au projet. Scotty doit aller dans le sud, aux alentours du 20, après quoi elle désire suivre les cours de vacances à Harvard. Je tiens à ce qu'elle s'y inscrive, si je puis les lui payer. Il lui faut une bonne formation et elle vient de prouver son aptitude à la recevoir. Tu vas la trouver singulièrement mûre et avertie de beaucoup de choses. J'ai l'impression que nous en avons pour 10 ans de guerre et que cette troisième année d'études à Vassar sera peut-être la dernière. C'est une des raisons pour lesquelles je tiens tant aux cours de vacances. Si je puis les lui payer, je pourrais aussi trouver le moyen de t'offrir un séjour à la mer en août. Alors tu auras pleinement joui de Montgomery. Tout cela dépend de mon producteur, selon qu'il décidera de poursuivre sans désemparer le tournage de Retour à Babylone ou d'entreprendre un autre film. Il y a 20 ans, L'Envers du Paradis était un grand succès et nous habitions Westport. Il y a 10 ans, Paris connaissait l'une de ses dernières grandes saisons américaines, mais nous avions dû quitter la fête et tu étais allé en Suisse. 5 ans plus tard, ça a été ma première crise cardiaque sérieuse et j'ai dû m'installer à Asheville. Les cartes ont tourné contre nous beaucoup trop tôt. J'espère que le calme règne à Montgomery et qu'on n'y parle pas trop de guerre. Affectueux souvenir à tous. Scott.
Là, il y a une période de sa vie, la dernière période de sa vie, où il est à Hollywood. Et là, tout bascule.
Oui.
C'est après la fêlure.
Exactement, c'est à partir de 36. En 36, bon, encore une fois, il avait beaucoup espéré, beaucoup, beaucoup espéré que Tendre et la nuit serait un roman à succès et qu'il retrouverait, à travers Tendre et la nuit, à travers le succès commercial de Tendre et la nuit, il retrouverait une façon de vivre. Il ne faut pas oublier que, à partir de 1929, ce qui compte dans le budget, pour parler finances, le budget de Fitzgerald, c'est tous les soins que réclame Zelda. Donc il avait à la fois sa Zelda et Scotty à charge. Et Tendre la nuit n'a pas du tout été un succès. Le volume de nouvelles, bon, c'était, on commençait à oublier Fitzgerald à ce moment-là. Et son agent, donc Harold Dober, a réussi à lui trouver, presque miraculeusement, on peut dire, un engagement à Hollywood. Alors les engagements à Hollywood, c'était assez terrifiant, en ce sens que c'était par semaine ou par mois. On avait un contrat, bon, puis qui pouvait durer, etc. Et les travaux, on n'imagine pas du tout. Peut-être que ça reste encore maintenant comme ça, je n'en suis pas sûr du tout. Mais à cette époque-là, les studios achetaient des scénaristes. Faulkner, c'était la même chose aussi. Bon, ils achetaient des scénaristes, puis alors on les mettait dans un bureau, et puis alors on leur disait, bon, bah alors on va adapter tel film, ou il y a tel scénario. Alors bon, on leur donnait un scénario, ils travaillaient dessus pendant une semaine, et puis après ils le donnaient, et puis après on le donnait à un autre pour le réécrire, etc. Ce qui fait que finalement, dans le travail de Fitzgerald, on a beaucoup de mal à savoir où est son travail.
Pendant ces 3 ans qu'il restait en Hollywood, il a remboursé toutes ses dettes. Ce qui est assez extraordinaire quand on voit tout ce qu'il traînait derrière lui, le fardeau qu'il traînait derrière lui. Et il restait 18 mois s'obligeant à rester sobre. C'était un des termes du contrat. Il ne devait pas se manifester, voyez, d'une façon voyante. Donc il n'a pratiquement pas bu pendant ce temps-là. Il y a juste quand il a eu des conflits, il a eu un conflit avec Mankiewicz en particulier, à propos d'un film tiré du roman de Remarque, l'écrivain allemand, « Trois camarades ». Et Joseph Mankiewicz, il l'appelait Joe dans ses lettres, il y a des lettres déchirantes dans lesquelles il fait appel au metteur en scène en disant « Mais enfin, tu crois que tu vas pouvoir en quelques heures corriger un travail que j'ai mis des semaines à écrire et trouver un dialogue. Je suis l'homme qui a donné la parole aux gens de ces générations, etc. » Évidemment, il écrivait comme un écrivain, il n'écrivait pas comme un scénariste. Ce sont des techniques tout à fait différentes. Et vraisemblablement, Mankiewicz avait raison à ce moment-là. Bon, alors ça n'a pas été, et là, il s'est remis à boire, etc. C'est de là que date son aventure avec cette columniste, comme on dit, cette journaliste anglaise, Sheila Graham, qui certainement a beaucoup fait pour le maintenir dans des limites raisonnables.
Parce que le scénario, ça, c'est la déchéance, c'est
la
tristesse.
Comme pour Faulkner, Faulkner appelait ça les mines de sel. Hein. Et ben lui, il emploie à peu près les mêmes termes. Dans les notes du dernier Nabab, il part de Hollywood comme... C'est pas une mine de sel, je crois que c'est un camp de pionniers au pays des lotophages. Au pays des lotophages, c'est-à-dire au pays où l'on perd la mémoire, où l'on ne sait plus qui l'on est.
Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à écrire son 5e roman, lequel cinquième roman se passe entièrement dans les milieux de cinéma, ça s'appelle Le Dernier Nabab, et c'est un roman qui aurait été certainement un admirable roman, car le peu qu'on en a est déjà superbe, mais la mort l'a empêché de le terminer. Il y a juste une première partie qui est écrite. Et en fait, même dans ce qu'on a et ce qui a été publié, même dans ce qu'on a, on sait très bien, parce que je vois bien comment il travaillait et la façon dont il retravaillait considérablement ses manuscrits. Ce n'était pas quelqu'un qui écrivait à toute allure et qui envoyait à la publication. Il travaillait beaucoup, 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 beaucoup. Et il est évident qu'il n'aurait jamais laissé publier Le Dernier Nabab tel qu'on l'a maintenant. Car les premiers chapitres sont un petit peu maladroits, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, et je ne sais pas si vous voyez Le Dernier Nabab, mais il y a une admirable séquence où le producteur emmène la jeune fille dans une maison qui se fait construire, qui est une maison qui n'a pas de toit, etc., sur le bord du Pacifique. C'est un chapitre absolument admirable, en fait, et non seulement il n'avait rien perdu, c'était encore le très grand écrivain qu'il était, mais peut-être même avait-il trouvé une autre façon plus secrète et plus forte de d'écrire les choses.
Vers la fin de sa vie, je crois que sa façon d'écrire est marquée en particulier par son intérêt pour les scénarios, l'attraction d'Hollywood et Le Dernier Nabab, et qu'il y a un aspect en même temps un peu désespéré, parce qu'il s'aperçoit qu'il ne pourra jamais retrouver la légèreté, cet aspect ensoleillé de ses premiers romans. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment il avait pensé, c'est une sorte de jeu de mots implicite, il avait pensé à appeler son personnage Knight, David Knight, K-N-I-G-H-T,
chevalier,
le preux chevalier, celui qui vient à la rescousse des demoiselles en danger, et Tender is the Knight, c'est-à-dire le chevalier, malgré tout, un chevalier tendre. Mais la nuit l'a emporté sur le chevalier.
Where fashion sits, put it on the Ritz. Different types to wear a day coat.
The roller skates rain down the streets. The black cars shine between the leaves. Your voice far away. I am going with my daughter to the country. My husband left. No, he knows me. But your voice on the telephone. If I hadn't abused words, so what you said might have meant something. But 120 stories. April evening spreads over everything. The purple blur left by a child who has used the whole paint box. Zelda.
Scott Fitzgerald, L'écrivain, une émission de Simone Douek, avec Roger Grenier, Jacques Tournier, André Levotte, Michel Fabre, Colette Fellous et la voix de Scotty Fitzgerald, document INA. Biographie, André Levotte, édition Julliard, Mathieu Broccoli, édition Vertige, chez Belfond, des nouvelles et textes inédits, traduits par Jacques Tournier. Texte lu par Rebecca Poli et Jean-Baptiste Malartre. Enregistrement, René Cherrier, Patrice Klein, Philippe Leduc. Mixage, Christian Fontaine et Edwige Rancière. Réalisation, Jean-Claude Loiseau.
L'histoire de ma vie est celle d'un conflit entre un besoin irrésistible d'écrire et un concours de circonstances acharnées à m'en empêcher.
C'était Une vie. Une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, lien, réécoute, podcast, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et le week-end prochain, nouveau jeu des pairs, un musicien et son impresario, deux vieux amis associés pendant des décennies, Serge de Diaghilev et Igor Stravinsky. Mais dans un instant, c'est le journal juste avant les passeurs de science.